Lumière de l'orthodoxie. Bertrand Vergely.
Chers amis, nous en finissons aujourd'hui avec le cycle des passions qui nous emmène en enfer. Nous avons parlé de la gourmandise, de la luxure, de la tristesse, de la colère, de l'avarice et de la jalousie. Aujourd'hui, nous allons parler de l'orgueil, qui est la pire des passions qui soit. Pourquoi ? Parce que l'orgueil est sournois. On pense cerner ce qu'il est, mais souvent on se trompe en ne voyant pas suffisamment la profondeur de celui-ci. L'orgueil a une facette psychologique, politique et métaphysique. Psychologiquement, il consiste certes à vouloir se sentir supérieur. Il consiste certes à aimer se sentir supérieur. Mais l'orgueil ne se sent supérieur que s'il peut humilier, écraser, abaisser. Aussi, être supérieur ne lui suffit pas. Il faut quelque chose de plus. Et c'est là qu'apparaît le caractère destructeur de l'orgueil. L'orgueil se traduit par le comportement politique des dominants. Psychologiquement, les dominants reprennent les caractéristiques psychologiques de l'orgueil. Ils aiment se sentir supérieurs et ils aiment humilier. Mais ce qui caractérise l'orgueil, c'est que ce qui vaut pour le commun des mortels ne vaut plus pour lui. Pour le commun des mortels, quand on rend un service, on dit merci. Quand on commet une faute, on demande pardon. Pour l'orgueilleux, il n'y a ni merci ni pardon. Il n'y a ni merci parce que ce n'est pas lui qui doit quelque chose aux autres, ce sont les autres qui lui doivent quelque chose. Il ne dit pas pardon parce que ce n'est pas lui qui commet une faute à l'égard des autres, c'est les autres qui commettent une faute à son égard. Il ne connaît ni merci ni pardon. Pourquoi ? Parce qu'il considère qu'il n'a pas à dire merci. Il n'a pas à demander pardon. D'où le caractère terrifiant de l'orgueil, son caractère insupportable, dans la mesure où l'orgueilleux ose ce que personne n'ose. Mais l'orgueil donne véritablement toute sa dimension quand on touche à la dimension métaphysique de celui-ci. Métaphysiquement, nous sommes structurés par l'humilité. L'humilité consiste à admettre qu'il existe un mystère de la vie. Ce mystère résidant dans le fait inouï de l'existence. L'humilité consiste à admettre qu'il existe un bien en soi qui reflète le mystère de la vie. si il y a un fait inouï d'exister, c'est qu'il y a en profondeur un bien dans le fait d'exister, une harmonie dans l'existence elle-même. L'existence existe parce qu'il est bon qu'elle existe. Et c'est ce qui fait le fait inouï de l'existence. Et l'humilité a, si j'ose dire, l'humilité de le reconnaître. Ce qui donne la vie selon le bien, dans le cadre de l'humilité. À savoir, la vie selon la conscience, se laissant guider par le bien qu'elle sent vivre en elle. Être humble, c'est accepter, dire oui au fait qu'il y ait une dimension mystérieuse de l'existence qui nous dépasse et qui s'exprime par l'existence d'un bien en soi et l'existence d'un bien en nous. La caractéristique de l'orgueil, c'est de refuser totalement le mystère de la vie, le bien et le bien à l'intérieur de nous. Il n'y a pas de mystère de la vie pour l'orgueilleux. Nous sommes seuls au monde et la vie est une violence qui nous a été faite. Nous n'avons pas demandé à vivre et voilà qu'on nous oblige à vivre. L'orgueilleux est révolté contre le fait de l'existence et bien évidemment contre l'idée derrière le fait de l'existence du Créateur à l'origine de ce fait. Il n'y a pas de fait inouï de l'existence, il n'y a pas non plus de bien en nous. Le bien est une valeur que les hommes se créent pour conforter leurs intérêts. Ne croyons pas qu'il ait une quelconque nature idéale. Enfin, ne croyons pas qu'il existe un bien à l'intérieur de notre conscience et que vivre consiste à se laisser guider par ce bien qui vit à l'intérieur de nous. Dans le jardin d'Éden, Dieu recommande à l'homme de ne pas consommer du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ne pas consommer du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal veut dire ne pas opposer le bien au mal et ne pas opposer le mal au bien. Que fait l'orgueil ? L'orgueil adore opposer le bien au mal et le mal au bien. Il adore vouloir tout comprendre, tout rationaliser. Il n'y a qu'une seule manière de tout rationaliser, c'est de mettre le mal à la base de tout. On met le mal à la base de tout quand on explique que le bien, pour être bien, a besoin de s'opposer au mal. Et le mal, pour être mal, a besoin que le mal et que le bien existent afin de mieux pouvoir le transgresser. Autrement dit, la caractéristique du mal, c'est de dire que le mal se sert de tout et tout sert le mal. Le mal se sert de tout, il se sert du bien. Et tout sert le mal, parce que le mal a intérêt à ce que le bien existe pour mieux le transgresser. On a là les vérités terribles qui caractérisent le discours de l'orgueil. C'est la raison pour laquelle il y a à travers l'orgueil un combat métaphysique sans merci qui a été vu par toute la tradition des pères et des saints. qui ont vu et qui ont aidé à voir que l'enjeu fondamental de l'existence réside dans cette alternative, l'humilité ou l'orgueil. C'était Nana Peradze et son chœur de musique liturgique géorgienne pour un hymne à la Mère de Dieu. Chers amis, je pense que vous serez d'accord avec moi, nous avons été passionnés en écoutant notre ami Francis Linglet, chirurgien dentiste, diacre de l'Église orthodoxe roumaine, nous parler de la dent, nous parler de l'arcade dentaire, nous parlant de la relation des dents entre elles et en particulier de l'occlusion dentaire avec tout ce que ça signifie. Aujourd'hui, cher Francis, vous voudriez bien, je crois, vous voudrez bien achever ce parcours avec vous en parlant de la place du chirurgien dentiste.
Eh oui, bonjour à tous d'abord et merci d'être encore à l'écoute. Je vous ai parlé de ces pathologies de l'articulation temporomandibulaire qui renvoient au bassin, systématiquement, qui renvoient au bassin, à nos os profondes, dont parle Annick de Souzenel. Et je crois qu'il est important, lorsque l'on est thérapeute, de penser à cela. Si je vois un patient qui me propose, au travers de tests, d'être renvoyé à ces difficultés, que faire des miennes en tant que praticien? Comment puis-je l'aider si moi-même je n'ai pas fait un chemin? Si moi-même je n'ai pas essayé de comprendre comment je fonctionnais? Si moi-même je n'ai pas essayé de comprendre quelle était la relation possible avec l'autre? Si moi-même je n'ai pas essayé de savoir où était le Christ en moi, où était le Christ en l'autre? C'est ça qui est fondamental. Et c'est là où je remercie le Seigneur d'avoir mis sur mon chemin, ces thérapies, tous ces stages que j'ai pu faire, tous ces gens que j'ai pu rencontrer. Mais c'est de voir qu'il s'agit, pour le chirurgien dentiste, et c'est une nouvelle place que je propose, d'être un vrai thérapeute, de ne pas être un mécanicien. Je vois malheureusement dans ma profession une mécanisation des éléments qui se fait de plus en plus. C'est une technologie extraordinaire qui permet de faire des réalisations extraordinaires, mais qui supprime totalement une partie du relationnel, ou du moins qui peut le supprimer si ce relationnel n'est pas pris en compte par le chirurgien-dentiste. Ce que je dis là, c'est valable aussi pour la médecine, c'est valable pour la pharmacie, c'est valable pour les infirmiers, c'est valable pour tout le monde. La relation avec le patient dans une thérapie est tout à fait primordiale. Elle est première avant tout autre traitement. Et pour cela, eh bien, il est absolument nécessaire, et c'est ce que le chemin que j'ai essayé de parcourir pendant ces années passées à Sainte-Croix, avec le prêtre Philippe, avec Annick de Souzenel, avec Bertrand, qui m'y a beaucoup aidé également, à essayer moi-même de me libérer d'un certain nombre de passions, d'un certain nombre de difficultés, et d'être ainsi plus présent. Je vis maintenant dans mon activité professionnelle différemment, puisque j'ai 75 ans, en retraite depuis maintenant 10 ans, et je travaille dans un centre humanitaire d'une façon bénévole, en soignant des gens qui n'ont pas de sécurité sociale, qui n'ont pas de couverture sociale pour la plupart des migrants, mais aussi des gens des Français, des Anglais, des Belges, enfin, bon, bref, un peu tout le monde. Il y a énormément de misère dans notre pays que nous ne soupçonnons pas. Et je travaille avec ces gens-là avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de respect, beaucoup de partage. Et ce sont des moments extraordinaires qui me sont donnés dans la fin de ma carrière. Je sais bien que ça ne durera plus des années. Je suis encore capable d'extraire des dents. Je suis encore capable de les soulager. Je suis encore capable de leur refaire un sourire en faisant un appareil. Je rends grâce à Dieu pour cela. Mais par contre, j'ai aussi la certitude de les comprendre, de les aider dans leur détresse, de prier avec eux et de pouvoir ainsi exercer pleinement ce que je crois être le métier de chirurgien-dentiste, tout en étant désolé de voir qu'actuellement, on ne peut plus se faire soigner, on ne peut plus soulager une douleur. Nous sommes dans un monde où le chirurgien-dentiste est inaccessible, dans un monde où le chirurgien-dentiste est cher, c'est les devis pour des implants, prime sur le soin, prime sur l'humanité. Ça me désespère un petit peu. Ce n'est pas ce que j'espérais de ma profession, que je ne reconnais plus actuellement comme étant la profession que j'ai tant aimée. Voilà, je tenais à dire ça, c'est extrêmement important. Donc je crois que pour le chirurgien-dentiste, il faut savoir que pénétrer dans la bouche des gens, c'est une forme de viol. On ne pénètre pas impunément dans les personnes comme cela. Donc si on veut le faire sans leur faire de mal, je ne parle pas d'anesthésie dentaire, je parle de douleurs plus profondes. J'ai vu des gens souffrir du fait d'une intervention qu'ils ne voulaient pas, d'une prothèse qu'ils ne voulaient pas avoir en bouche, d'une couronne qu'ils ne voulaient pas qu'on pose, d'une dent qu'ils ne voulaient pas qu'on touche. Et ces gens-là sont violés dans leur intimité par des personnes qui ont une supériorité parce que c'est docteur, machin, parce que c'est dans un cabinet médical. Eh bien non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'être ainsi. Pour moi, le soignant doit se mettre à l'écoute du soigné, quel qu'il soit. Doit le comprendre avant de commencer quelques travaux que ce soit. Doit l'aimer, doit le respecter, prier avec lui, prier pour lui. C'est extrêmement important dans ma façon de concevoir la profession maintenant. Je sais que je fais parfois partie de vieux réac en disant ça.
Non,
mais
les derniers des Mohicans.
Voilà. Mais ceci dit, je ne vois ma profession que comme ça. Et j'espère que les années qui me restent, je pourrai les faire dans cette condition de travail. J'aimerais ajouter que tout ce que j'ai trouvé, tout ce que j'ai pu faire, j'ai essayé de le partager. Je n'ai pas toujours réussi. Je n'ai pas toujours réussi à enseigner comme il le fallait. Je n'ai pas eu beaucoup de fans, on va dire ça comme ça, en sachant que quand je traite un patient avec mes techniques, ça dure une demi-heure et puis je demande une consultation. Quand l'autre fait une céramique, il gagne 10 fois plus. Donc c'est évident que c'est toujours l'argent qui l'a remporté. Alors, je ne veux pas conclure sur quelque chose de triste, mais je voulais quand même en parler. En tout cas, moi, je suis certain d'une chose, c'est que
ce que l'on voit partout, dans la médecine aujourd'hui, ce que vous êtes en train de dire, tout le monde le dit. Attention, attention, l'humain est en train de partir.
C'est extrêmement important pour moi de le dire et de crier cette alerte-là. Ceci dit, j'ai la chance d'avoir eu ces relations-là. J'ai la chance de pouvoir encore, grâce à vous Bertrand, et grâce à la radio où je suis, de le partager avec des gens. C'est une grâce extrême. Je tiens à rendre grâce à Dieu pour avoir vécu cela, à remercier le Seigneur de m'avoir permis de faire ce chemin dans la vie professionnelle qui m'a différencié de beaucoup, qui m'a apporté beaucoup de joie, plus de joie que de difficultés, qui ne m'a pas enrichi, mais j'aimerais terminer simplement par cette phrase. Quand je travaillais ailleurs, jadis, dans ma première partie de vie professionnelle, j'avais été mis en cause par un praticien stomatologue qui m'avait engueulé, qui m'avait dit que je faisais un travail qui ne correspondait pas au sérieux habituel et que je faisais ça pour m'enrichir. Je lui ai répondu, oui, je fais ça pour m'enrichir, mais je n'ai pas la même définition du mot enrichir que toi. Nous ne nous sommes pas parlé pendant 5 ans. Et un soir, 5 ans après, mon assistante me dit « Il y a monsieur Machin qui veut vous parler. » Je dis ben, « Qu'est-ce que c'est ?» Et ce type me dit « Francis, je viens de comprendre le sens du mot enrichir, je veux te voir bientôt. » Je me suis dit « Mais
cet homme était pauvre, il s'est enrichi voilà. à votre contact. »
Et donc, là, je voulais terminer sur cette anecdote de ma vie, mais qui m'a fait tellement plaisir de dire « En fait, la joie d'être dans la prière, la joie d'être dans de la vie en Christ, c'est cela. C'est donner cela à nos patients, le partager avec eux. Dans ma vie professionnelle actuelle, dans ma mission humanitaire, eh bien, c'est ce que je fais toujours avec un grand
Francis,
plaisir.
Vous nous avez raconté une fois l'histoire de quelqu'un qui est arrivé dans votre cabinet et il fulminait.
Histoire absolument incroyable. Un homme apparemment sous alcool ou sous drogue, j'en sais rien, mais qui disait des grossièretés à tout le monde, et qui a fini sur mon fauteuil, parce que la médecin m'a dit « Bon, ça doit être un abcès, je veux pas voir ce type-là. » Et bon, j'ai la chance d'être assez costaud encore. C'est un petit gars. Je l'ai collé sur mon fauteuil. J'ai pris ses épaules, je l'ai collé sur mon fauteuil. Et je lui ai dit « Maintenant, c'est fini, on va prier. » Et il s'est mis à pleurer en me disant « Oui, apprends-moi. Mon papa est mort et je ne sais pas faire ça. » Ça a été pour moi quelque chose d'extraordinaire. On a prié ensemble, j'ai arraché sa dent. Quand je suis sorti, le médecin et les deux infirmières m'ont dit « T'as fait quoi, Francis ?» Ben, j'ai dit « On a prié ensemble avec ce monsieur qui était devenu un agneau. »
Il avait une dent contre la vie.
J'espère l'avoir retiré. Voilà.
Oui. Donc il y a un moment où on s'aperçoit que, au fond, les choses se traduisent sous un autre plan. C'est-à-dire que derrière des choses très matérielles, se trouvent des choses très spirituelles.
Oui.
Et que, quelque part, les dents sont un monde.
Les dents sont un monde complet, une représentation complète de l'individu, une représentation complète de l'histoire de l'individu, et un miroir pour celui qui s'y approche. Et donc, le plus grand respect est nécessaire. Pour moi, le respect est fondamental.
Et il y avait quelque chose, et on pourra terminer par là, j'avais parlé avec un ami dentiste, et il m'avait dit, une des choses merveilleuses, c'est de pouvoir rendre leur sourire aux êtres humains.
C'est évident que lorsqu'une personne a perdu son sourire, elle a perdu le contact avec l'autre, elle a perdu la possibilité d'être dans un milieu social. Elle a perdu beaucoup de relationnel et j'ai en tête des centaines de visages qui se voient dans la glace avec les dents que je viens de leur mettre et qui renaissent quelque part, qui renaissent.
Ils avaient les dents en vrac, les voilà. dents en bataille. Ils n'osaient pas ouvrir la bouche, ils la fermaient.
Les gens qui parlent avec la main devant la bouche pour voilà. ne pas montrer leur sourire et qui tout voilà. à coup peuvent voilà. sourire à moi mais à la vie aussi. Ouais. Ça c'est très beau.
Il y avait un médecin qui m'avait raconté avoir repéré un jeune homme en Afrique qui avait un bec de lièvre. Et quand il lui a enlevé le bec de lièvre, il m'a dit « Le sourire de cet homme qui allait pouvoir se marier était le ciel sur la terre. » Merci,
merci,
cher Francis,
merci.
D'avoir fait venir le ciel sur la terre.
Eh bien, merci à tous.
Et pour terminer cette émission, à nouveau, Nana Peradze avec son chœur de musique liturgique géorgienne pour un hymne à la Mère de Dieu.
Его пречиста. Et maintenant, retrouvons Bruno Fuma pour la matinale du dimanche.
J'ai fini par quitter Notre-Dame et la France. Les sanglots de Verlaine, Hugo et ses souffrances, Valjean, Quasimodo, misérable martyr. Je préférais partir sans jamais revenir. J'ai fini par quitter Notre-Dame et la France, abandonner Van Gogh au tournesol de Vence. Hallucination à Saint-Rémy l'absinthe, ajouter des couleurs à la lumière éteinte. J'ai fini par quitter Notre-Dame et la danse, du boléro de Ravel, roulement sans dissonance. Et plutôt que m'essayer à d'autres originalités, j'ai fermé le piano et avaler la clé. J'ai fini par quitter Notre-Dame toute haute et laisser Vincent, François, Paul et tous les autres. Auguste à Louis Lumière, mon cinéma d'avant, Romy à Delon et Signoret à mon temps. Notre-Dame et l'enfance, sa liberté chérie, les rois, les présidences, tout ce qui était nous, trois couleurs d'un drapeau. Je vous salue Marie, amour année zéro. J'ai fini par aller quand d'autres s'impatientaient, voir ailleurs si on savait. Laver nos blessures dans un bain de jouvence, sans jamais oublier Notre-Dame et la chance d'avoir eu dans la vie cette correspondance. Car je sais qu'il n'y aura jamais plus beau que la France. Je sais qu'il n'y aura jamais plus beau.